Thème de la prière. Quand nous nous sentons dépassés, je ne sais pas si c'est vrai pour vous, mais parfois, la dernière chose qu'on fait, c'est se tourner au Seigneur pour prier. Et ça devrait être la première chose qu'on fait. Et c'est vrai, certains ne vont pas pouvoir participer en venant à des activités pendant cette semaine. Certains ne vont pas pouvoir proposer un logement ou proposer un repas. Mais tous peuvent participer en priant. Et je ne dis pas ça comme une simple concession, comme si, si on ne peut vraiment rien faire de vraiment pratique, on peut quand même prier. Non. La prière, c'est vraiment ce qui est absolument critique. C'est quasiment, ou c'est la première manière de participer à cette semaine d'annonce de l'Évangile. Si on ne prie pas, à quoi ça sert de faire une telle semaine? Et on sait que Dieu se plaît à répondre à nos prières. Parce que la prière fait partie de son économie, donc c'est-à-dire sa manière d'agir. C'est Dieu qui suscite nos prières. Il les suscite pour accomplir ce qu'il veut faire. Ce qu'il va faire, parce qu'il est souverain. Mais il se plaît de susciter ses prières. Donc si nous voulons voir Dieu à l'œuvre pendant cette semaine, mais on peut penser également à tout le ministère de cette Église. On peut également penser à notre vie de disciple, notre vie de témoin, là où Dieu nous place dans la vie quotidienne. Ben, il va falloir que nous nous mettions à genoux pour prier. Alors, puis-je vous inviter à vous tourner dans vos Bibles, à trouver la page 620, c'est dans Matthieu 6. On va voir ce que Jésus nous dit. On va voir ce que Jésus nous dit au sujet de la prière. Matthieu 6, et on va lire à partir du verset 9. Et avant de lire, je vais prier. Notre bon Père Céleste, nous sommes devant toi ce matin. Et nous voulons te remettre non seulement cet enseignement que Jésus nous a donné. Oui, Père, par ton esprit, enseigne-nous. Mais nous voulons également te remettre cette semaine de la bonne nouvelle, d'annonce de la bonne nouvelle. Père, nous savons que si toi, tu ne construis pas la maison, les ouvriers construisent en vain. Et Père, nous voulons te demander dans ta grâce, pour ta gloire, bénis l'annonce de ta parole. Apprends-nous ce matin à nous humilier quand on se sent dépassé, mais de manière générale, à dépendre de toi dans la prière. Père, nous voulons confesser, ce n'est pas toujours notre premier réflexe. Nous avons tendance à dépendre nous-mêmes, à dépendre de nos activités, de notre énergie, de tout ce que nous pouvons faire. Mais Père, nous savons que si toi, tu n'agis pas, on construit en vain. Nous devons dépendre de toi. Apprends-nous à prier ce matin. Apprends-nous à dépendre de ta souveraineté bienveillante. Et nous te demandons ces choses au nom de ton Fils qui nous a appris cette prière. En son nom. Amen. Matthieu 9. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Et jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, dans cette section qui se trouve pile poil au centre du sermon sur la montagne, Jésus nous parle de la prière. En tant que disciple de Jésus, envoyé, comme on le sait, à la fin de l'évangile de Matthieu, envoyé pour prêcher la bonne nouvelle aux nations. La prière doit être au centre de notre relation avec Dieu, de notre vie de disciple. C'est notre privilège. Mais c'est un privilège que nous avons tendance à négliger. Moi le premier. Pourquoi ? Parce que la prière nécessite la foi. Nous prions un Dieu invisible. Et donc prier exerce notre foi. Nous prions parce que nous croyons que Dieu est là et qu'il agit. Il nous écoute et il agit. Mais force est de constater qu'exercer cette foi-là est souvent difficile. C'est un combat spirituel avec notre propre incrédulité. Et quand nous pensons à cette semaine d'annonce de l'Évangile, nous savons qu'il va falloir exercer notre foi. Il va falloir entrer dans ce combat avec notre propre incrédulité et intercéder auprès de Dieu, nous adresser la parole à notre bon Père céleste. Il est là, il nous écoute. Dans ce passage, Jésus nous enseigne comment prier, quoi prier. Et c'est beaucoup plus qu'un simple modèle de prière, ce qui nous donne. Cette prière, elle nous montre à quoi une relation saine avec Dieu notre Père ressemble. Alors nous voyons dans la première partie de cette prière que Jésus met la priorité sur Dieu lui-même, son nom, son règne, sa volonté. Et ensuite, dans un deuxième temps, il parle de nos requêtes personnelles, nos besoins. Et on va voir que cette prière nous décentre et remet Dieu au centre. Sinclair Ferguson, dans son livre sur le serment sur la montagne, nous donne 5 titres utiles pour comprendre cette prière et la centralité du Père dans la prière. Je m'en suis inspiré avec 5 titres qui peuvent nous aider ce matin, un peu adaptés. Premièrement, l'adoration du Père. C'est ce qu'on va voir en premier, l'adoration du Père. Et ensuite, la volonté du Père. Troisièmement, les soins providentiels de notre Père. Et quatrièmement, la grâce du Père. Et finalement, la protection du Père. Alors, il y a énormément de choses à dire pour chaque section de cette prière, mais je vais juste essayer d'être bref et focaliser sur les leçons que nous pouvons en tirer en vue de notre prière pour cette semaine d'annonce de la bonne nouvelle. On va commencer avec l'adoration du Père. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père. Ces mots changent tout. Ces mots sont extraordinaires. Notre Père. Et c'est là où Jésus commence. Il le fait parce qu'il parle à ses disciples qui sont là, réunis autour de Jésus, autour de lui, à ses pieds, sur la montagne. C'est leur privilège. Leur privilège de s'adresser à Dieu et de l'appeler Père. La prière chrétienne, c'est parler à notre bon Père céleste. Il y a quelque chose de très exclusif dans la prière chrétienne, dans la prière véritable. Parce qu'on sait, c'est Jésus qui nous l'enseigne, on ne vient au Père que par le Fils, c'est-à-dire par Jésus. Les musulmans que nous rencontrons, que nous allons peut-être rencontrer pendant la semaine d'évangélisation, parlent de leur Dieu, prient leur Dieu. Les juifs aussi. Mais on ne vient au Père que par le Fils. C'est le privilège du chrétien qui, par le Fils, connaît le Père, peut venir au Père, s'adresser à Dieu comme Père. On voit là aussi les enjeux de cette semaine d'évangélisation. Il nous faut connaître ce Père. S'il est notre Père, ce n'est pas parce que nous sommes simplement des créatures, mais parce qu'en mettant notre foi en Jésus, nous avons été adoptés. Le Christ ressuscité a dit à Marie de Magdala, « Jean 20, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et en Jésus, grâce à son œuvre sur la croix, Dieu est devenu notre bon Père céleste. Du coup, la prière est notre privilège familial. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec la liberté d'enfant de Dieu. Ça évoque l'intimité. Ça évoque cette liberté familiale. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et dans cette semaine d'annonce de la bonne nouvelle, c'est notre désir. C'est notre désir tous les jours de la semaine pour nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est notre désir qu'ils peuvent connaître ce Père et dire avec nous. Qui peuvent dire avec nous notre Père. C'est notre désir le plus cher. On n'est pas là pour proposer une idéologie, pour parler d'une série de dogmes, mais plutôt d'une relation avec notre bon Père céleste par Jésus. C'est une bonne nouvelle de liberté familiale. Alors on voit que ce Père n'est pas sur la terre, mais au ciel. Notre Père qui est aux cieux. Ce qui nous rappelle qu'il est bien au-dessous de nous et qu'il est bien plus grand que nous. Il est notre créateur et nous sommes ses créatures. On ne va pas annoncer un petit Dieu que nous avons fabriqué de nos propres mains ou par notre imagination. Il est notre Père, certes, mais pas juste un petit Père à l'image des êtres humains, de nos pères humains. On annonce celui à qui chacun doit la vie. Si nous allons parler à nos amis de Dieu, nous reconnaissons qui sont ces créatures. Et donc ces créatures ont besoin de connaître leur Créateur. Nous sommes sur la terre, il est dans son ciel, et ça nous conduit à le révérer, à l'adorer. Au début de cette prière de Jésus, la prière que Jésus nous a apprise, là au début il y a l'adoration. On reconnaît le privilège familial inouï de rentrer dans la présence du Dieu créateur, qui est aux cieux, il est tout autre, il est au ciel, il est tout puissant, il est le roi de la création. Et dans le même ordre d'idées, Jésus enchaîne en disant « Que la sainteté de ton nom soit respectée ». Oui, c'est parce que notre Père est très saint. Il est tout autre. C'est l'attribut que Jésus met en avant. Dieu est saint, trois fois saint. Il est sans péché, il est pur. En demandant que la sainteté de son nom soit respectée, nous parlons de la sainteté de sa personne. Nous demandons à Dieu de faire en sorte qu'il soit lui-même honoré, profondément craint, respecté de tous. Respecté de tous, par tous, mais à commencer par nous-mêmes. Le pasteur John Piper dit, si la mission existe, si le partage de l'évangile existe, si l'évangélisation existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Si nous voulons voir des personnes venir à Christ pour devenir des adorateurs en esprit et en vérité, c'est parce que c'est juste et bon que Dieu soit honoré. C'est juste et bon qu'il soit respecté et loué. Il est l'être le plus saint, le plus juste, le plus aimant qui soit. Et ça veut dire que toute louange, tout honneur doit lui revenir, à lui seul. Si on donne cet honneur à quelqu'un d'autre, à un faux Dieu, à nous-mêmes, c'est une travestie, c'est l'univers à l'envers. Si nous voulons annoncer avec audace, avec courage, avec persévérance, l'évangile de Jésus-Christ pendant cette semaine d'annonce de la parole, mais aussi dans notre vie quotidienne. Il faut qu'on soit intimement persuadé de la sainteté de Dieu. Notre vision de Dieu doit être immense. Il est grand, il est tout autre, il est saint. Il faut qu'il soit adoré. C'est juste et bon qu'il soit adoré, parce qu'il est l'être le plus saint, le plus juste qui soit. Tout honneur, toute louange doit lui revenir. C'est la chose la plus normale qui soit. Et Jésus nous invite à être ébahis par la grandeur de notre Père. Ensuite, la volonté du Père. Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je pense qu'on a souvent tendance à passer très vite, je parle de moi-même sans doute, très vite à la supplication, aux requêtes dans la prière. On a demandé des choses à Dieu pour nous-mêmes. On demande ce que nous pensons être juste et bon. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais Jésus nous demande d'être centré sur Dieu. Il nous recentre sur sa volonté, sur son règne. Il nous invite en quelque sorte à chercher d'abord le royaume de Dieu. Et Dieu, notre Créateur, est le roi souverain de l'univers. Rien n'échappe à son règne. Jésus nous invite dans cette prière à reconnaître que notre Père est souverain sur toutes choses. Certes, on vit dans un monde où le mal et le malin font des ravages. Mais comme le matin de Pâques nous le montre, c'est Dieu qui règne. Le mal a été vaincu, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Son règne viendra. Alors on a l'habitude de penser à Jésus comme le roi. Jésus est le roi. C'est juste parce que Jésus est le roi que le Père a choisi pour régner sur sa création, régner sur son royaume. Et le Père exerce son règne au travers du Fils. Et c'est pour ça que nous devons fléchir, plier le genou devant Jésus, le Seigneur Jésus, le roi que le Père a choisi. C'est comme ça que nous obéissons au Père. En demandant au Père de faire en sorte que sa volonté soit faite, que son règne vienne, dans un sens, on demande au Père de conduire beaucoup de personnes à fléchir le genou devant son Fils, devant le roi qu'il a choisi, devant le Seigneur de l'univers. Et en priant ainsi, on demande aussi, on invite nos propres cœurs à continuer de fléchir le genou devant Jésus, dans chaque aspect de notre vie. Donc prions que beaucoup entendent la parole pendant cette semaine d'annonce de l'Évangile et qu'ils se soumettent à Jésus. C'est ça la bonne réponse, se soumettre au roi Jésus. Un roi qui est quand même le roi, mais qui est plein de bienveillance. Il est celui sous les pieds de qui Dieu, notre Père, réunit toutes choses. En priant ainsi, et aussi en annonçant la bonne nouvelle de Jésus, nous nous soumettons nous-mêmes joyeusement à son projet, réunir toutes choses sous les pieds de Jésus. Nous reconnaissons ainsi la bonté, la générosité, la grâce de sa volonté, de son règne. Son règne est un règne juste et bienveillant. On vit dans un monde qui défie Dieu. Et cette défiance nous fait beaucoup de mal. Mais son règne est juste et bienveillant. Son règne est notre espérance. Il nous le faut, il nous le faut. Nous voulons semer la parole, cette parole qui annonce le royaume de Dieu. Le règne si bienveillant, si juste de Jésus-Christ. Et c'est notre conviction intime que Dieu fera sa volonté. Il est souverain. Cette parole par laquelle Dieu nous gouverne, comme nous lisons dans Ésaïe 55, ne reviendra pas sans effet. Sans avoir fait ce que Dieu désire et rempli la mission que Dieu lui a confiée. On va semer cette parole. Dieu est souverain. Il va accomplir sa volonté et on va lui demander de le faire. Il fera venir les siens à lui. C'est à partir du verset 11 que la prière change un peu de direction. Et Jésus nous enseigne à formuler nos requêtes. Jésus veut que notre souci, notre premier souci, soit la gloire de notre bon Père céleste. Il veut que notre relation avec lui soit centrée sur lui, pas centrée sur nous-mêmes. Mais même nos requêtes, même le fait de dépendre de Dieu, de lui demander des choses, le glorifie. Nous reconnaissons ainsi qu'il est notre Créateur, qui règne, qui nous aime, qu'il est capable de pourvoir nos besoins. C'est aussi un acte d'adoration. Nous reconnaissons par là même nos propres limites. Nous reconnaissons que nous sommes simplement des créatures. Nous ne sommes pas le Créateur. Nous ne maîtrisons pas nos vies et nos circonstances. Donc nos requêtes naissent elle aussi, d'une bonne compréhension de Dieu, de qui il est. Il est notre Père qui nous aime. Il est notre Père souverain qui se plaît à pourvoir à nos besoins et qui peut y pourvoir. Il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous ne lui demandions. Il suffit de venir à lui, avec peu de mots, de manière simple, avec confiance, lui présenter nos besoins physiques et spirituels. Nous prions, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et dans l'expression de notre pain quotidien, il y a l'idée du temps. Le pain de ce jour. Le pain quotidien dont nous avons besoin aujourd'hui. Oui, parce que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, nous pouvons pleinement faire confiance à Dieu notre Père. On n'a pas besoin de nous inquiéter pour nos lendemains. Dieu connaît nos besoins là. On peut simplement venir devant notre Père et lui présenter nos besoins d'aujourd'hui. Quand nous pensons à cette semaine d'annonce de la parole, cette semaine de mission, on est conscient des besoins physiques et spirituels. On a besoin de ces soins providentiels. On a parlé de logement, de repas. On a besoin d'énergie. On va accueillir une quinzaine d'étudiants. C'est pas rien pour une église de notre taille. Par la force des choses, très souvent le poids du travail tombe sur les épaules d'un petit nombre aussi. C'est facile de stresser. Mais Dieu connaît nos besoins avant même qu'on ne les formule. Il se plaît à pourvoir à nos besoins. Donc est-ce que je peux vous demander, est-ce que je peux me demander aussi de prier aussi dans ce sens? Dieu, on a besoin de tes soins providentiels de chaque jour. On a besoin de logement. On a besoin de repas. On a besoin de protection dans la rue, dans les transports. Peut-être en priant ainsi, vous pouvez également vous poser la question, est-ce que je peux être la réponse à cette prière? Est-ce que je peux loger un étudiant? Est-ce que je peux inviter un étudiant à manger chez moi? Cette partie de la prière nous dévoile, nous révèle un Dieu puissant et bienveillant. Il se plaît à pourvoir nos besoins quotidiens, fondamentaux. Il est un bon Père souverain à qui toute la terre appartient. Et ça veut dire aussi que quand nous demandons à des gens de se soumettre à Jésus-Christ, c'est pour qu'ils connaissent ce Père généreux. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. C'est pour qu'ils cessent de croire les mensonges que le diable a soufflés dans les oreilles d'Adam et Ève. Les mensonges selon lesquels Dieu ne serait pas si bienveillant ou généreux que ça. Il y a une méfiance vis-à-vis de Dieu dans notre société. Une méfiance basée sur ses mensonges. C'est pour ça que, en Christ, on découvre un Père qui est loin d'être un Père avare, mais un Père généreux. On a une bonne nouvelle à annoncer aux gens. On a un Père qui prend soin de nous, un Père qui nous aime. Il n'est pas un Dieu qui est, par contre, une machine céleste à simplement nous donner des choses. Parfois, certains peuvent vivre la foi chrétienne de cette manière-là, avoir une mauvaise compréhension de la foi de cette manière-là, voir en Dieu simplement quelqu'un qui va les bénir ou leur donner des choses, quelqu'un qui est là juste pour régler les problèmes du quotidien. Le souci de Jésus dans cette prière, c'est une juste connaissance de Dieu. Il est un Dieu saint, il est un Dieu aimant, il est aussi un Père juste, et c'est ce qu'on voit aussi dans la prochaine section, il veut qu'on ait une relation juste avec lui. On va parler de la grâce du Père. Parce qu'ici, on voit que Jésus nous invite à la repentance. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et cette repentance quotidienne découle d'une vision juste, d'une bonne connaissance de qui Dieu est. Il est saint, il est tout autre. L'assurance de sa bonne disposition à notre égard vient aussi de l'Évangile, de Jésus, de son sacrifice à la croix. Grâce à Jésus, et en particulier grâce à ce sacrifice pleinement suffisant, nous pouvons venir quotidiennement dans la présence de notre Père, non pas comme des esclaves qui craignent le pire, mais sachant que nous sommes des enfants bien-aimés. Des enfants bien-aimés, pardonnés, justifiés, adoptés. C'est Jésus qui a connu le châtiment de Dieu pour que nous n'ayons jamais à le connaître. Par sa mort sacrificielle, Jésus a vaincu le diable en le désarmant. Comment ? Par ce sacrifice. Nous ne pouvons plus être condamnés. Le diable est venu condamner. Dieu ne va pas nous condamner. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. On a donc cette liberté d'enfant. On peut rentrer, on peut venir dans la présence de Dieu, confesser nos fautes à Dieu, notre Père. Jésus nous invite à une relation vraie avec le Père. Une relation où nous ne cachons pas notre péché, où nous ne le nions pas, où nous ne le minimisons pas. Et c'est l'évangile de la grâce qui nous fait comprendre que nous n'avons plus à nous cacher. On n'a pas à avoir peur de Dieu. Jésus a tout fait pour satisfaire sa justice. Et quand nous pensons à ceux et celles que nous allons rencontrer pendant cette semaine de l'évangélisation, ou les amis, les collègues, les membres de vos familles que vous rencontrez dans la semaine, même cette semaine. Qu'est-ce que c'est cette évangélisation? C'est leur inviter à vivre une relation saine avec Dieu, qui commence dans la repentance et la foi, et qui continue, qui se vit quotidiennement dans cette repentance, dans cette foi en Jésus. Si Jésus met cette repentance au centre de la prière, cette prière qui elle-même est au centre du sermon sur la montagne, c'est parce que cette grâce, ce pardon, cette confession, cette repentance est au cœur de notre vie de disciple. Et c'est parce que le pardon est possible. Le pardon nous est offert. C'est ça la bonne nouvelle, c'est Jésus qui nous est offert. Le pardon est offert à tous. Ça, c'est la bonne nouvelle pour notre semaine d'évangélisation. Jésus, le pardon est offert à chacun. Nous ferons bien de nous préparer à cette semaine d'annonce de la parole en nous approchant de Dieu, notre Père, dans la repentance sincère et confiante. On est souvent bien faible, enclin à la désobéissance, et trop soucieux de notre réputation, plutôt que l'exaltation du nom de Jésus. On a peur de l'homme, plutôt que peur ou la crainte de Dieu. Et nous devons demander à Dieu notre Père de nous pardonner, et de nous façonner, de faire de nous des serviteurs qui l'aiment vraiment, et qui aiment leur prochain comme eux-mêmes, qui aiment ceux et celles qui ont tant besoin d'entendre ce message de Jésus, le pardon offert à tous. La bonne nouvelle d'un Seigneur qui sauve. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de la deuxième partie du verset 12? Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus parle là de la grâce qui suscite la grâce. Jésus lit le pardon que nous recevons de Dieu au pardon que nous accordons aux autres, parce que les deux sont liés. C'est vrai, ces versets heurtent parfois nos consciences, parce que c'est parfois difficile de pardonner à autrui. Les blessures nous font mal. C'est difficile de pardonner à autrui parce que nous ne savons pas à quel point, nous n'apprécions pas à quel point Dieu nous a pardonné. Nos fautes auprès de Dieu était plus grande que nous ne pouvions jamais réaliser. Et pourtant, par le sacrifice de Jésus-Christ, elles sont toutes couvertes. Nos dettes ont été effacées. Sa grâce doit nous laisser bouche bée. Et ce n'est que cette grâce-là, celle que Dieu nous accorde, qui peut nous donner la force de pardonner à ceux qui nous font du mal. Leurs offenses à notre égard, même les pires d'entre elles, pâlissent au regard de notre offense, de notre faute à l'égard de Dieu. Celle que Dieu a si pleinement, de manière si gracieuse, pardonnée. une fois pour toutes. Pendant cette semaine d'évangélisation et peut-être de manière générale, quand nous annonçons la parole, on s'expose au ridicule, au mépris, peut-être surtout à l'indifférence. Ça peut faire mal. On peut avoir tendance à nous blinder, ou à devenir cynique, à devenir peut-être un brin hostile envers ceux qui font ça. Mais nous devons nous souvenir du fait que nous aussi nous étions hostiles à l'Évangile. Nous étions peut-être nous-mêmes hostiles à ceux qui nous ont annoncé l'Évangile au début. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à ça. Dans sa grâce souveraine, dans sa miséricorde infinie, il nous a conduits à Jésus. Il nous a montré grâce sur grâce. Et c'est cette grâce-là qui doit nous pousser à pardonner autrui, à montrer cette grâce aux autres. Dans cette semaine d'annonce la parole, c'est cette grâce que nous voulons mettre en avant. Il y a une grâce qui est possible, qui change la vie. Dernière partie, la protection du Père, verset 13. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. » Jésus nous invite à faire confiance à notre Père céleste pour notre protection spirituelle. Il nous invite à demander à notre Père de ne pas nous exposer ou nous soumettre à la tentation, mais de nous délivrer du mal. Et là, Jésus reconnaît que la vie chrétienne n'est pas facile, parce que notre chair, notre nature est faible, elle est pécheresse. On veut faire le bien, on veut plaire à notre bon Père céleste. Mais en même temps, notre chair, notre nature pécheresse n'est jamais loin. On est si tenté de revenir en arrière, de poursuivre une vie centrée sur nous-mêmes, plutôt que d'avoir une vie centrée sur Christ. On est tenté de chercher la gloire de notre réputation plutôt que la gloire du nom de Jésus. Bien sûr, on doit tous lutter contre ce mal, contre la tentation, contre le péché qui nous guette, qui nous enveloppe si facilement. Mais si nous allons dire non à ce qui déplaît à Dieu, si nous allons dire oui, si nous voulons dire oui à ce qui plaît à Dieu, on a besoin de reconnaître qu'il nous faut la protection de Dieu. Il nous faut sa force, la force qui vient de lui. Cette force n'est pas juste une force inexplicable, mystérieuse. Très souvent, Dieu nous fortifie en renouvelant notre intelligence par l'Évangile. Il nous aide dans l'épreuve et face à la tentation, en nous montrant ce qui est vrai et juste, en nous rappelant qui nous sommes devenus en Jésus. La grâce immense qu'il nous a montrée. Il nous montre que nous sommes ses enfants, pardonnés, adoptés. Il nous montre sa grâce, il se montre lui-même. Il nous rappelle qu'il est bon, il est généreux, il est juste, il est saint, il est fidèle. La force vient de la connaissance de Dieu lui-même. Alors Jésus ne nous invite pas à avoir une foi superstitieuse ou une spiritualité où on voit partout le mal, le malin, les démons. Mais en fait, ce qu'il nous donne pour nous protéger, c'est une foi, une spiritualité qui est centrée sur Dieu, qui connaît le Père et qui lui fait confiance en toute simplicité. Une semaine d'annonce de la parole, comme une vie de témoignage en général, est un combat. Le malin s'y oppose. Il ne veut pas que le nom de Jésus soit annoncé. Une chose qu'il veut faire, c'est de faire taire nos prières ou de faire en sorte qu'on ne prie pas. Il va essayer d'empêcher l'Église de prier pour cette semaine. Peut-être semant un esprit de nonchalance ou d'indifférence. Et c'est une tentation pour nous tous. Nous devons demander à Dieu de nous protéger de cette tendance, de nous garder dans la dépendance de lui. On doit également prier pour les étudiants qui vont venir, que Dieu, notre Père, les protège, qu'ils ne succombent pas à la tentation, au doute. On va leur demander de faire des soirées où les gens vont poser des questions difficiles. Que Dieu les protège, que Dieu fortifie la foi, que Dieu les centre sur la grandeur de Dieu. Que Dieu renouvelle leur force. Alors, pour conclure, Le but de ce message, c'est de nous inviter à prier. On va faire cette semaine d'annonce de l'Évangile, comme on continue dans la vie quotidienne à annoncer Jésus-Christ. On a besoin de prier. On a besoin de dépendre de Dieu. Que son règne vienne. Son règne viendra tôt ou tard. On sait que son règne viendra. Mais nous allons prier que son règne vienne dans la vie de beaucoup. Que beaucoup plient les genoux devant Jésus dans les semaines à venir. Prions. Notre bon Père Céleste, nous voulons venir devant toi ce matin.